C'est l'heure de retrouver Marie Papille et c'est le poisson qui sera à l'honneur cette semaine. Marie Papille, bonjour!
Salut Sébastien!
Parce que tu donneras bientôt un atelier sur les poissons méconnus, c'est en collaboration avec la poissonnerie, mais c'est complet. Mais pour ceux qui n'ont pas réussi...
c'est ce soir.
Oui, c'est ça. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une place, tu nous fais un bref résumé, là, quelques astuces pour parler de ces poissons méconnus puis varier peut-être ce qu'on met dans notre assiette.
Exactement. Donc là, ça sent le printemps. On a peut-être envie de manger un petit peu plus léger. C'est peut-être une bonne raison là, de mettre le poisson à l'honneur. Mais lequel on mange? Puis comment on les choisit? Comment on les prépare, là, c'est vraiment ce qu'on va parler ensemble cette semaine.
Parce que j'ai un peu l'impression que dans nos choix de poissons, ben on revient pas mal tout le temps au même.
C'est vrai. Et puis pourtant, il y a quand même beaucoup de poissons canadiens qui sont pas tellement connus, qui pourraient être mis à l'honneur, là, parce que dans le fond, c'est bien beau manger du poisson, mais des fois, ça vient de où? Ça vient de très loin, tu sais.
Ben, il y en a des bons poissons variés ici, là, chez nous.
Oui, alors pour les chairs blanches, là, eh bien, on a de l'aigle fin, on a du bar rayé, il y a le sébaste, il y a le doré, bien sûr, que beaucoup connaissent. Mm-hmm. Dans le poisson à chair plus rosée, ben il y a l'omble chevalier, qui est vraiment bon, ou l'Arctic Char, là, on le connaît plus en anglais. Il y a la truite, il y a le saumon, tu sais, on a du saumon canadien. Le saumon, faut bien le choisir, par exemple, parce que là, il y a de plus en plus de culture de saumon, là, ça, c'est moins intéressant. Mais le saumon, là, qui est pêché dans nos rivières, là, ça peut être vraiment intéressant, là, à mettre dans notre assiette.
Bon, voilà plein de choix. Il y a un truc qui s'appelle le guide de la fourchette bleue. Qu'est-ce que c'est, ça, Marie-Papille?
Ben écoute, ça, c'est un bon une bonne plateforme pour aller chercher plus d'informations, justement, sur les fruits de mer et les poissons, là, à consommer qui seraient plus écologiques ou plus près de chez nous, là. Donc plus facile là, à aller chercher, puis plus intéressant à consommer. Donc ça peut être trouvé en ligne, là, la fourchette bleue. Sachez que la poissonnerie de Greyfield, ils sont fourchette bleue. Donc ils ont beaucoup de poissons là, qui sont écologiquement parlant bons pour nous et puis bons pour notre santé. Puis il y a aussi une liste là, sur le site de Greenpeace qui nous donne aussi plein de poissons qui sont bons à consommer. Parce qu'on le sait, là, il y a des changements climatiques, donc des fois, il y a des meilleurs choix là, qu'on peut faire que d'autres. Donc, je vous encourage d'aller regarder un petit peu ces guides-là là, qui sont faits justement pour le consommateur.
Bon, le poisson, on peut le cuisiner de toutes sortes de façons. Qu'est-ce que tu nous recommandes ou qu'est-ce qui, peut-être, on devrait essayer qu'on ne fait pas nécessairement?
Ben écoute, on peut pas mal faire toutes les techniques de poisson, toutes les techniques de cuisson avec les poissons. C'est sûr que sur le barbecue, c'est un peu compliqué des fois parce que ça peut coller. Mais si on veut faire un poisson barbecue, là, je conseillerais d'y aller avec une planche de cèdre ou une planche d'érable, là, puis de le faire cuire vraiment sur une planche. Sinon, ben facilement dans une poêle, on peut poêler nos morceaux de saumon. On peut le pocher. Quand on poche un poisson, ben il faut vraiment penser d'avoir un liquide là qui va être savoureux. Donc soit vous allez faire un fumet de poisson, donc pour rester dans le thème, ou vous pouvez aussi faire une espèce de carie de légumes et puis d'aller pocher votre poisson là, ça va vous donner des belles notes là de noix de coco. Ça peut être un plat super réconfortant. On peut le faire cuire en papillote. Donc mm-hmm. En papillote, ça va être au four là dans un papier parchemin ou d'aluminium avec les aromates de notre choix. Ou on peut le manger cru encore en sushi ou en tartare. Bien sûr.
Ouais, tu parlais du barbecue. Là, moi, j'ai déjà essayé. C'était une recette que j'avais sur laquelle j'étais tombé. Là, c'est la truite entière, bien farcie, là, avec genre de la lime, de la menthe, tout ça. Wow. J'avais acheté un truc au Dollarama dans lequel on peut mettre le poisson. Là, une espèce de grille qu'on peut revirer. Là.
Donc, il y avait oui, ça, c'est une bonne idée parce que c'est ça. Ça a tendance à coller, mm-hmm. Là, le poisson. Donc, il faut un peu préparer le tir là, avant de se lancer sur le barbecue. Question de ne pas perdre le trois quarts de notre poisson dans les grilles.
Hein? Oui, effectivement. Ce serait bien décevant.
Sinon, pour les cuissons, vous pouvez regarder là, par pouce d'épaisseur du poisson. Des fois, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Là, mais dites-vous là, que vous y allez par vous essayez de calculer la partie la plus charnue du poisson. Puis c'est environ 10 minutes de cuisson là, pour 5 à 7 cm. Là. Fait que là, le poisson, c'est sûr que là, dit comme ça, ça peut avoir l'air un peu vague, là, mais vous êtes mieux d'y aller moins longtemps que trop longtemps. C'est quelque chose qui a très peu de gras, le poisson, donc ça peut vite devenir sèche. Donc, si jamais vous voyez une recette et puis que votre morceau n'est pas nécessairement la grosseur de la recette, pensez à diminuer le temps là, d'avance là, pour ne pas vous faire avoir.
Oui, parce que c'est ça, on est mieux de le remettre un petit peu après que de l'avoir trop cuit. Là. On ne peut pas
Exactement.
Le rattraper.
Exactement. Puis dès que ça se détache un peu, là, quand on touche le poisson puis que les morceaux se détachent un peu, là, ben c'est prêt, là. Il faut pas aller plus loin que ça, là. C'est pas nécessaire.
Parfait. Au-delà de la cuisson, il y a ce avec quoi on le mange, le poisson, qui peut faire la différence. Puis tu as une suggestion pour nous d'une sauce pimentée.
Oui, parce que là, tu sais, c'est bien beau les sauces hollandaises, les sauces tartare. C'est quand même des sauces qui sont très riches. Et
oui.
Puis là, dans ce temps un peu plus printanier, on a des fois envie de manger quelque chose d'un peu plus léger. Donc là, je te propose une sauce pimentée à l'asiatique.
OK. Alors, procède comment?
Oui. Alors, on y va. Alors, c'est très populaire en ce moment sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Et puis, ça fait vraiment la différence dans la technique que je vais t'expliquer. Donc, dans le fond, ça va vous prendre des piments séchés. Donc là, vraiment, la quantité, ça va varier là, de comment vous avez envie de la faire pimenter. Là. Donc, mettez plus ou moins de piments séchés. On va mettre aussi de la poudre de piment. Donc là, plus de type paprika, qui sera pas nécessairement piquante.
Okay.
On va mettre une cuillère de sel, une cuillère de sucre. Ça, peu importe la quantité là, que vous mettez de piment séché, il faut toujours qu'il y ait le petit balan là, dans les sauces asiatiques de salé-sucré. Là. C'est ça qui fait le umami qu'on aime tant. Et puis, à portion égale avec votre piment séché puis votre poudre de piment, on va mettre des graines de sésame.
OK.
D'accord. On continue. On va mettre aussi dans notre bol un petit peu d'oignon vert, si on en a, et puis quelques gouttes d'huile de sésame. Et puis là, l'idée, ça va être dans une petite casserole sur le feu. On va faire chauffer à peu près une demi-tasse, dépendamment de la quantité que vous voulez faire, d'huile chaude. Et puis là, cette huile-là, jusqu'à temps qu'elle devienne chaude là pour faire cuire, limite frire des aliments, et bien là, on va venir verser cette huile chaude-là sur notre mélange de piment et de graines de sésame. Ça va faire vraiment une ébullition là, dans le bol. Donc, prenez un grand bol là, pour être sûr de ne pas vous brûler. Et puis là, vraiment, là, cette petite sauce-là va avoir comme cuit le temps d'un instant avec cette ébullition d'huile-là. Et puis là, il n'y aura plus qu'à brasser le tout. Et puis, vous avez une belle petite sauce, autant pour tremper des rouleaux de printemps, autant pour accompagner votre souper de poisson avec du riz, ou encore pour accompagner là, une belle salade. Là, ça peut être la base de votre vinaigrette si vous voulez avoir quelque chose d'un peu différent. C'est super bon avec le poisson. Si vous aimez là, les sauces avec des petits kicks, là, c'est le temps là, de vous réveiller les papilles à ce temps-ci de l'année. Donc, pourquoi pas l'essayer?
Donc, juste pour être sûr, dans le fond, on ne met pas les trucs dans le chaudron. C'est que l'huile qu'on fait chauffer puis on le verse par-dessus les aromates après ça. J'imagine qu'il faut faire attention, s'assurer d'avoir un bol qui est capable de soutenir la chaleur. Là.
Oui, ah oui, bon point. Bon ouais. Point. Donc, un bon bol bien avec une bonne fabrique. Là. Donc, oui, un bon bol. Et puis prenez le plus grand que plus petit pour être sûr de ne pas avoir d'éclaboussures. Là, mais vraiment, c'est une belle sauce à essayer. Puis ça se garde quand même pendant des mois là, par la suite au frigo. Là, donc, sans problème.
Bon, ben merveilleux, Marie-Papille. Bon atelier sur les poissons méconnus. Merci pour cet aperçu-là. Puis on se retrouve la semaine prochaine.
Merci. Bye-bye.